Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast des gens réveillés. Aujourd'hui, je serai accompagné de Morden.
Salut.
Et d'Altiash.
Bonjour à tous.
Vous n'entendrez pas la voix de Pixel cette semaine, il est un peu disparu dans les limbes. Je pense que, tout comme moi, il a fait une sieste un peu plus longue que prévu, on va dire.
Voilà. Il a fallu que je réveille Tyran.
Je précise, j'ai été réveillé une demi-heure avant le podcast, hein. C'est juste que j'ai une fâcheuse tendance à me rendormir en fait quand je me mon réveil. Bon, allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Chasm, on enchaînera ensuite sur Vanquish, nous évoquerons également l'arrivée de Red Dead Redemption, non, parce qu'il y a plein de rédactions cette semaine qui ont dit qu'il y avait des screenshots de Red Dead Redemption qui avaient leaké et tout, mais en fait c'est pas du tout ça, vous allez voir. On évoquera également le nouveau jeu des développeurs de Tropico, nous continuerons sur un jeu qui va disparaître de la surface de la Terre, comme ça du jour au lendemain, et vous allez voir, c'est pas un petit jeu. On va enchaîner ensuite sur Square Enix qui lâche IO Interactive, donc les développeurs de Hitman. Et enfin, nous terminerons avec la licence Mass Effect qui va retourner en cryogénisation. Sans oublier notre critique d'un accès anticipé, Dead Cells. Allez, c'est parti, on va commencer donc avec Chasm. Alors, pourquoi je voulais vous parler de Chasm cette semaine? Bah, tout simplement parce que il se trouve que cette semaine, j'ai joué à Dead Cells et que ce jeu-là, en fait, m'a rappelé Chasm. Parce que Chasm, en fait, c'est un Metroidvania en 2D généré procéduralement qui avait l'air super cool et qui avait, comme pas mal de projets Kickstarter, été financé il y a 8000 ans. Et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qui devient ce jeu, en fait? Et il se trouve que, bon, alors, je suis allé voir sur la page Kickstarter, et heureux hasard, il y a eu une mise à jour récemment. Donc c'est plus une news pour répondre à ceux qui, comme moi, se sont posé la question, parce que je crois que j'ai entendu cette question, notamment dans l'émission de Gamekult. Alors, il se trouve que Chasm est bien vivant, il y a eu une update récemment, le 9 mai dernier. Écoutez, ils viennent tout juste d'atteindre l'alpha, et surtout visiblement c'est un jeu qui est pas mal montré en salon régulièrement, même s'ils ont pas encore diffusé de build auprès des gens qui ont contribué sur le Kickstarter. Ils vont bientôt passer en phase de bêta, enfin bon, bientôt, vous savez, avec Chasm c'est très relatif, enfin, je rappelle que le jeu il était censé être fini en 2014, donc
ah ouais.
Oui, c'était très très avancé, hein.
Donc bon, ce que j'avoue quand même, c'est que je trouve le jeu toujours aussi classe, voilà. Mmh. Mais j'espère qu'il arrivera à terme, parce que c'est un projet que j'attends toujours autant, parce que, enfin, il a une patte tellement particulière, et bon, moi, tu sais, un bon petit Metroidvania, tout ça, je dis jamais non. J'espère que ça continuera dans la bonne direction. Je vous mettrai un lien vers la news, accessoirement, sur le Kickstarter. Vous verrez, il y a 2-3 gifs un peu classe qu'ils ont mis. Bon, voilà. Allez, on va enchaîner, messieurs. Et on va maintenant parler de Vanquish, mon cher ATH.
Donc tu parlais de Chasm qui met un peu de temps à venir, bah on va dire que c'est pareil pour les joueurs PC qui attendaient Vanquish, quoi. Comme on dit,
ah oui, oui.
Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Et là l'expression prend tout son sens, parce qu'en fait Sega avait fait du teasing sur un possible portage de Vanquish, et bah chose faite, Vanquish arrivera le 25 mai sur Steam au prix de 19,99€. Et ce portage est encore d'autant plus intéressant que si vous avez déjà acheté en fait Bayonetta, le portage sur PC, vous aurez 25% de réduction qui s'applique à Vanquish aussi.
Putain, des gens intelligents les mecs.
Bon seigneur.
Tu sais, à une époque où les primo-acheteurs, on a tendance à leur donner un coup de pied dans les roustons et leur dire merci, au revoir. Ça fait plaisir, tu vois, de voir une boîte qui te dit « Alors, t'as acheté nos précédents jeux, donc du coup, t'auras un discount. » Ce qui, par ailleurs, devrait être du bon sens de commercial.
Grave.
Ça fait plaisir, voilà, d'être choyé comme ça.
Et surtout, enfin, franchement, si vous avez pas fait Vanquish à l'époque sur console ancienne génération, il faut vraiment que vous le fassiez, parce que si vous trouvez Gear of War lent, là, c'est vraiment une autre dimension du TPS, c'est vachement nerveux, avec un scénario très nanardesque, hein, mais on s'en fout, on est là pour délinguer du russe robotique, tout ça, et franchement, le jeu, il vaut vachement le coup, donc c'est une bonne nouvelle pour le PC.
Apparemment, le portage est nickel, hein, de ce que j'ai entendu, mais enfin, on verra, on n'est jamais à l'abri
de
mauvaises surprises.
Sur ça qu'ils communiquent dans les bandes annonces du portage PC, hein, ils disent qu'ils ont débloqué le framerate, ils ont débloqué la fluidité, ils ont débloqué l'expérience et tout. Grâce au PC, donc
Disons voilà. qu'en tout cas, j'ai pas de raison d'être pessimiste parce que Bayonetta était très réussi. Donc bon, j'espère en tout cas qu'ils seront pas foirés sur ce coup-là. Mais moi, bon, je vous l'avais dit hein, lors de l'annonce de Bayonetta, Vanquish Please. Bon, bah le prochain c'est quoi? Yakuza, ça serait pas mal. ou Virtua Fighter, tu vois, ce genre de choses. Sega, laissez pas tomber, hein, s'il vous plaît.
Par contre, ce qui est cool pour les gens, c'est que le jeu va être disponible aussi en 6 langues différentes, dont le japonais, l'anglais, mm-hmm. le français. Donc, ça veut dire que si vous aimez pas une version, vous pouvez switcher entre la langue que vous préférez, et puis voilà. Ça, c'est
alors,
cool aussi.
Alors, est-ce que ce sera comme dans Binary Domain, qui est un autre TPS de Sega, je le rappelle, où les mecs avaient l'accent de Marseille?
Mais je sais plus, parce que moi, Vanquish, quand je l'avais fait en anglais. J'ai jamais lancé le français pour voir ce que ça donnait, donc je pourrais pas te répondre là-dessus.
Pour rappel, Vanquish, bon, il y a quand même une philosophie de jeu à laquelle il faut adhérer derrière, c'est un jeu à scoring. Hein. Enfin, c'est un jeu, il faut aimer, tu sais, le recommencer, pour apprécier sa substantifique moelle.
C'est typiquement, en fait, on va dire, un jeu d'arcade, mais moderne. C'est vachement, ouais, voilà, c'est ça. Et ça se ressent dans le jeu, mais d'ailleurs, voilà, si vous aimez le score, parce que tu peux faire le jeu, genre, juste le mode scénario, mais après, pour les, mm-hmm. ceux qui veulent perfectionner, t'as toujours le mode scoring, et là, pour avoir les high scores et tout ça, faut s'accrocher, quoi.
Donc, bon, super nouvelle, encore un jeu qu'il va falloir que j'achète, je sais plus où donner de la tête. Mais celui-là, tu vois, c'est un de ces jeux, rien que par principe, je sais que je vais l'acheter.
Non mais honnêtement, il vaut le coup juste parce que le jeu, il est fun de A à Z, quoi. C'est-à-dire que tu
prends... C'est du fun en barre, ce jeu.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est pas un jeu qui va te faire réfléchir ou je sais pas quoi. Tu prends, tu débranches ton cerveau, tu t'amuses et tout. Voilà, non mais franchement, c'est une bonne définition du divertissement. Tu t'amuses et tout.
Bon, allez, on va maintenant passer à la fumisterie de la semaine. Alors, c'est pas tellement la faute du jeu, encore non. que je me demande si derrière il y a pas un petit coup de communication, parce qu'il est un peu sorti de nulle part comme ça, et je sais pas s'ils ont pas essayé de surfer, tu sais, sur la vague Red Dead Redemption.
Ça me paraît évident.
Ce jeu, c'est Wild West Online. Il ouais. Y a des screenshots de ce jeu qui sont sortis cette semaine, Mandren. Mm-hmm. Et tout le monde a dit, ça y est, les premiers screenshots de Red Dead Redemption, on ne ouais. visera personne, en particulier en France, n'est-ce
c'est
pas?
C'est ça. Et comme quoi, les choses durent malgré le départ de certains. Alors, en fait, à la base, c'est un screen qui a leaké avec de grosses guillemets, et donc a forcément fait penser à Red Dead Redemption, donc un certain nombre de rédactions qui tirent plus vite que leur ombre ont évidemment conclu que c'était Red Dead Redemption, puisque effectivement, en dehors de Red Dead, il paraît que aucun développeur de jeux vidéo n'a envie de faire un jeu sur le Far West. Eh ben, c'est faux, puisque c'est Wild West Online, en réalité, un jeu qui sort effectivement de nulle part, qui va bientôt participer à une campagne de Kickstarter, un jeu qui est développé par une team qui s'appelle 612 Games, dont certains développeurs et artistes ont travaillé sur un jeu qui s'appelle Crysis 2 League of Legends, et c'est édité par un studio qui s'appelle DJ2. Évidemment, personne n'a entendu parler de ces gens-là. voilà, il faudra faire attention évidemment à la campagne Kickstarter.
Non mais surtout, ne financez jamais... Bon, je sais que j'en ai financé des mémos sur Kickstarter, mais ne suivez pas mon exemple. Parce que, en vrai, c'est une connerie. Voilà, un mémo, il faut plusieurs dizaines de millions de dollars pour en faire un. C'est pas avec quelques millions comme ça que tu fais un MMO potable, hein. On va pas se cacher derrière son petit doigt.
Ouais. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est Wild West Online? C'est donc un MMO tendance Far West. PC Gamer a quand même eu l'occasion de parler avec le vice-président du studio qui s'appelle Stéphane Bugage et qui lui en a un petit peu dévoilé un peu plus sur la stratégie du jeu, à savoir que donc la campagne Kickstarter va commencer à la fin du mois et demandera 250 000 $, mais il y aura énormément de stretch goals et on y reviendra parce qu'il y a notamment des features importantes qui sont cachées derrière des stretch goals qui sont très chères.
Ça commence bien comme Kickstarter, hein.
Ouais, c'est ça. Une première version du jeu serait dispo d'ici la fin de l'année d'après lui, et peu importe si le Kickstarter est financé ou pas. Le Kickstarter est là uniquement pour avoir plus d'argent pour ajouter des features au jeu.
Ça donne vachement envie de donner.
Ouais, c'est ça. Il affirme sans
surtout
problème.
Ce qui fait peur, c'est que ces features, apparemment, c'est pas des petites features, quoi. Donc, c'est là que tu dis, alors, ok, ton financement, t'es sûr qu'il est bien solide, là, parce que ça fait un peu peur, ton histoire, là.
Parlons-en maintenant, d'ailleurs, des stretch goals. Bon, un stretch goals qui est plutôt de la... on va dire de l'idéologie qu'autre chose, mais un des premiers stretch goals, c'est 400 000 $, et c'est pour débloquer des personnages féminins jouables. Okay. Donc ça, évidemment, on sait que c'est un sujet sensible et effectivement, c'est un peu con. Un autre stretch goals qui, pour le coup, parlera à tous les joueurs de Red Dead Redemption, c'est la feature des braquages de train. Alors les braquages de train, ça a l'air trop stylé, donc évidemment, tout le monde va, a priori, sortir le porte-monnaie pour mettre du cash dans le Kickstarter. Le problème, c'est que ça sera développé qu'à partir du stretch goal 1 750 000 dollars.
Bon, cela dit, ils ont raison d'être confiants, parce que quand tu vois tous les MMO qui ont eu des gros succès sur Kickstarter, oui, notamment en ce moment, il y en a un sur lequel Caféine de Geekzone a fait un super article très intéressant où il explique pourquoi c'est de la connerie de financer, disant que si tu veux, il y a pas mal de vieux routards du MMO comme moi qui ont encore la foi, quoi, on va dire, et qui sont un peu frustrés parce qu'on leur a toujours vendu, tu sais, le MMO sandbox ultime, et que mis à part Eve Online, on va dire, c'est un genre qui a jamais trop prospéré, quoi. Et qui à chaque fois remettent une pièce dans la machine en espérant que cette fois ça va marcher, tu vois.
Ouais.
Donc il y a ceux comme moi qui ont craqué une ou deux fois, qui se sont dit non non c'est bon, on va arrêter là, on va arrêter les conneries. Et il y a ceux qui continuent de mettre une pièce dans la machine à chaque fois. Donc non mais ils ont raison. Hein.
Voilà, donc voilà pour les stretch goals un peu bon pas étonnant, mais c'est vrai que c'est un peu poussé. Sur le concept du jeu, donc ça sera un MMO qui sera axé sur le PVP. Enfin, ils essaient de limiter le PVE malgré leur grande inspiration qu'est Red Dead Redemption et les jeux Rockstar, puisqu'à savoir qu'il y aura bien sûr le système de recherche qui est bien connu des joueurs de GTA et Red Dead. À partir du moment où le joueur est trop recherché, il va devenir la cible pour les joueurs et les chasseurs de primes. Voilà, si tu fais trop de braquages et tu te comportes grosso modo pas très très bien.
Bon, soit dit en passant, les chasseurs de primes sont forcément des joueurs, de ce que j'ai compris.
Justement, et donc ce système-là en fait ne tient que sur les joueurs, c'est-à-dire qu'il y aura pas de course endiablée avec des PNJ qui vont vous courser parce que vous avez fait un vol en fait. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui serait un peu dommage. Après, effectivement, si chaque ville a un shérif et chaque shérif est un joueur, a priori, ça va pas poser problème si le joueur est dans la partie.
Bah moi je suis partisan de l'équilibre de Eve Online, c'est-à-dire qu'il y a des zones où il y a des PNJ, les joueurs sont protégés par des PNJ, hein, tout simplement, et t'as d'autres zones, on va dire un peu plus sauvages, où là c'est les joueurs qui font la loi en fait. Je trouve ça plus intéressant parce qu'il y a un équilibre, si tu veux, qui se crée, où t'as des joueurs qui vont être pépères, qui sont pas totalement sécures non plus, tu vois, mais disons que s'il y en a qui font des conneries, ils se prennent les PNJ sur la gueule, quoi. Et ceux qui veulent vraiment se la jouer old school, un peu comme moi, tu vois, parce que moi, c'est ce que je préfère, bah ils ont accès aux zones sauvages où bah c'est les joueurs qui gèrent tout, quoi.
À savoir que donc le vice-président du studio affirme sans problème que le jeu leur est venu de l'absence de portage PC de Red Dead Redemption. Donc lui, il a aucun problème à dire que c'est un pompage clair et net. Sauf que lui, évidemment, il axe toute la communication sur le fait que ça soit un MMO. Donc à savoir qu'il y aura des spécialisations, des joueurs pourront être récolteurs, d'autres pourront être mineurs, d'autres pourront être fermiers. Et toutes ces ressources-là, en fait, collectées par les joueurs, vont donner la vitalité à l'économie du jeu.
Morgan, ça te rappelle quelque chose, hein, tous les genres en accès anticipé que t'as dans ta bibliothèque.
Donc, il parle évidemment d'un système de crafting. Il y aura un système de gang. Donc ça peut être intéressant, hein, puisque c'est là aussi ce qui donne toute la spécificité d'Eve Online, c'est cette capacité à avoir des rivalités entre les corporations et à créer véritablement une histoire dans le jeu. Donc ça pourrait être intéressant de le voir notamment transposé dans Wild West Online. À savoir que ils vont également travailler sur la possibilité de braquer des banques, ce qui est un peu la base quand même, hein, dans un jeu de Far West, et le vol entre joueurs, c'est-à-dire que les joueurs pourront créer des campements. Et donc vous pourrez essayer d'aller filouter les campements de certains, ou bien sûr dans des magasins dans des villes, et à savoir que les villes, si vous braquez trop de magasins dans cette ville-là, elles pourront choisir de vous bannir, et à ce moment-là vous serez relégué en fait au marché un peu souterrain, c'est-à-dire que vous aurez accès que à des repères de bandits qui seront bien évidemment pas très bien famés, ça pourrait être compliqué d'y survivre. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai noté sur cet article de PC Gamer qui était ma foi fort intéressant. Après, tout ça ne reste que du concept et des belles paroles tant qu'on n'a rien vu du jeu et tant que même la campagne Kickstarter n'est pas lancée.
Oui, parce que je rappelle, hein, y a des Kickstarter de MMO lancés par des vétérans de l'industrie il y a 3-4 ans. qui sont toujours pas sortis. Bon, c'est des projets qui ont avancé. Moi, par exemple, j'avais financé Crawfall. Crawfall est toujours sur les rails pour le moment. Ça a l'air de progresser. Mais c'était des vétérans de l'industrie qui savaient ce qu'ils faisaient, tu vois. Donc voilà, moi, je dis méfiance, encore une fois. Sur le papier, moi, tu sais, c'est le jeu idéal pour moi. Hein. Enfin, moi, j'adore ça. Hein. Un MMO sandbox, il y a tous les trucs sont gérés par les joueurs. En plus, dans le Far West, qui est un thème qui est déjà délaissé dans le MMO, mais délaissé dans le jeu vidéo en général. Je veux dire, en dehors de Red Dead Redemption, des jeux sur Far West, il y en a pas 36 000.
Je pense qu'à mon avis, tu dois les compter sur les doigts d'une main tous les jeux sur le Far West qui sont sortis sur le jeu vidéo, quoi. À part, voilà, si tu rajoutes toutes les conneries comme Lucky Luke, etc., tu vois, il y en a pas vraiment beaucoup. Moi, enfin, ce qui me ferait rire, c'est que, tu vois, là, ils lancent le Kickstarter et tout ça. Et une fois que la sortie de Red Dead Redemption 2 arrive sur PS4 et Xbox One, Rockstar annonce justement Red Dead Redemption 2 sur PC avec le mode online comme il y a dans GTA 5. Et là, du coup, bah, en fait, ce Kickstarter va être totalement useless parce que tout le monde va jouer à GTA, enfin, Red Dead Redemption 2, tu vois.
Alors après, oui, je suis d'accord que d'un point de vue marketing, il serait bouffé par Red Dead Redemption s'il sortait sur PC. Après, en tant que joueur, je serais beaucoup plus intéressé par un Wild West Online parce que c'est un MMO, tu vois. Avec tout ce que ça implique.
Alors que là,
en termes de structure, d'interaction de joueurs. Après, l'approche des jeux Rockstar est aussi intéressante parce que l'avantage avec les jeux de Rockstar, c'est qu'il y a les modes. Et on le voit notamment en ce moment avec GTA V. Il y a une vitalité qui est incroyable sur le jeu, quoi. Je rappelle, il y a la sortie du mode RP qui fait un carton. Il y a Pixel qui avait mis une news sur... Il y a des gens qui sont amusés à recréer Terminator avec le moteur de GTA V, tu vois. Enfin, ça fait de la pub au jeu, tout ça. Le jeu est vivant et c'est aussi une approche qui peut être intéressante quand t'es un acheteur, quoi.
Ouais, par contre, moi, je voudrais dire quand même un mot sur toute la presse là qui a fait son buzz là-dessus, là, sur concernant Red Dead Redemption 2. C'est que ils balancent l'information sans réfléchir. Et moi, j'ai juste en fait envie de citer un célèbre philosophe du 21e siècle qui s'appelle Morsay, qui dirait « Cliquez, cliquez, bande de salopes, lâchez des commentaires. » Voilà.
Pouce bleu, pouce bleu.
Ah non, il dirait plutôt...
Soit dit en passant, c'est une philosophie que partage Pixel, hein, je précise. Allez, on va enchaîner, messieurs.
Ouais.
Morin, tu vas garder la parole.
Absolument.
Et on va parler du prochain jeu des développeurs de Tropico.
Ouais. Alors le studio bulgare en fait qui a développé Tropico 3, 4 et 5, donc ils n'ont pas développé les deux premiers.
Oui. Ceux qui ont repris la série.
Ouais, il vient de signer un nouveau partenariat avec l'éditeur Paradox Interactive. Paradox Interactive, on rappelle que c'est le gros succès de Cities Skylines, 3 500 000 ventes hein, quand même. Ils ont signé un partenariat pour développer un nouveau jeu qui s'appelle Surviving Mars. Et Surviving Mars, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de gestion de construction de ville, donc à la City Skylines, mais qui a une surface de jeu de survie, puisque on se doute bien que faire une gestion de ville sur Mars, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est le concept de base. Le jeu sortira donc sur PC, PS4, Xbox One, en 2018, donc c'est pour dans pas si longtemps que ça. Et donc il faudra faire attention à un certain nombre de traits différents des jeux de gestion habituels, c'est-à-dire la santé mentale de vos colons, la production de l'eau, de l'air, de nourriture, de faire attention à tout ce qui est événements qui ne peuvent se produire que sur Mars, notamment des tempêtes de sable, le manque de ressources.
Oh, tu le sens, Mandran, le jeu, tu vas passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures.
Mais il y en a déjà eu des jeux de un peu micro-sim sur des jeux de gestion de planètes comme ça, j'ai oublié le nom, mais où on devait créer une espèce d'habitat pour des chercheurs sur une planète qui ressemblait à Mars, je sais même plus si c'était sur Mars, mais ça y ressemble. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la gestion un peu plus étoffée, un peu plus macro. Alors évidemment, on se doute bien qu'on va pas non plus terminer avec une énorme ville à la City Skylines, mais ça risque d'être intéressant. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vu vraiment le jeu tourner, on a vu qu'une cinématique qui est ma foi bien jolie, mais en dehors de ça, rien que le concept a l'air plutôt cool quand même.
Bah disons que, bon, Aemimon Games, ils ont fait un super boulot sur Tropico 3, 4 et 5, c'était pas que des simples jeux de gestion, il y avait une ambiance super cool quoi. Donc j'espère que ils vont continuer comme ça et qu'ils vont... nous faire un jeu, bon voilà. Mais par contre, là où je les attends en tournant, c'est sur l'interface.
Ouais.
normalement ils savent faire, mais c'est toujours le truc compliqué quand tu fais un jeu de gestion sur console. Il faut que l'interface sur PC profite du fait que bah t'as un clavier, donc j'espère qu'ils géreront ça bien. Voilà.
Et moi ce que je trouve intéressant en fait, c'est que déjà dans Tropico 5, il y a un aspect voilà gestion de la ville et tout ça, mais derrière il y a aussi un vrai message en fait politique qui est en arrière-fond. Et le jeu n'oublie pas aussi d'être marrant en fait. Et tu vois, il se prend pas vraiment au sérieux, et c'est ça qui est cool. Et là, j'espère aussi que tu vois en fait sur Mars, ils vont réussir aussi à implanter un peu d'humour. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est là au moins tu vois, ils prennent un concept qui est existant et qu'ils essaient d'amener autre chose d'un peu plus frais.
C'est vrai que des jeux de gestion sur Mars, il y en a pas 36 000.
Voilà, et ça, moi, je trouve ça intéressant. Et puis même, enfin, de ce qu'on a pu voir dans la bande-annonce, tu vois, par exemple, l'humanité a l'air de vivre dans des espèces de bulles pour les protéger, tu vois, de l'atmosphère, etc. Donc, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, j'espère qu'ils vont garder quand même l'écriture un peu à la Tropico 5 en essayant de mettre un peu de légèreté là-dedans, et ça serait cool, quoi.
Ou en tout cas, qu'ils gardent une écriture dedans.
Ouais.
De quoi qu'il arrive.
Mais ils ont l'air d'avoir justement gardé ce trait-là, puisque la toute fin du trailer de cinématique se termine avec justement une petite scénette un peu humoristique. Donc, a priori, c'est un signe que ça va se perpétuer, quoi.
Voilà, voilà. Bon, messieurs, on va parler maintenant de la news de la tristesse et du copyright.
Non, non, non.
Alors, ce sera terminé quand vous écouterez ce podcast. Alan Wake va être retiré de Steam et accessoirement des Store Consoles aussi.
Du Store Xbox parce qu'il n'était jamais sorti sur Sony, quoi.
Voilà. Ouais.
Va être retiré à la vente en fait, tout court.
Et donc le jeu va être retiré de la vente, pourquoi ? Parce que les droits sur les musiques vont expirer. Voilà. Je suis un peu mitigé parce que d'un côté, tu vois, Alan Wake, c'est pas un jeu pour lequel j'ai une affection telle que je me dis « Ah putain, ils vont pas faire ça !» Mais de l'autre, enfin, je trouve que c'est grave qu'un jeu qui est sorti il y a quoi ? Il y a 7 ans, je crois ?
Ouais, comme ça.
7 ans, il est sorti en 2010, hein, le 14 mai 2010, pour être précis.
Voilà, un jeu qui n'a que 7 ans, enfin même, enfin d'ailleurs peu importe la date, mais 7 ans déjà c'est très court, mais d'une manière générale, que des jeux comme ça disparaissent de la circulation parce que les droits expirent, je trouve ça hallucinant quoi. Enfin,
ah moi ça me dépasse.
Vous savez à quel point on aime le droit d'auteur dans le coin, je veux dire, la semaine dernière on vous en a fait des tartines sur le droit des marques, et là maintenant on va vous parler du copyright, mais... Là, pour le coup, c'est vraiment des lois qui sont absurdes, et là où ça me fait peur, surtout, tu sais, c'est par rapport à tout ce qui est conservation du jeu vidéo, quoi, d'une manière générale. Parce que, en gros, pour être conservateur du jeu vidéo, il va falloir rentrer dans l'illégalité, quoi. Enfin, c'est...
Ce qui me fait rire par rapport à Alan Wake, c'est que... Bah déjà, en fait, comme toi aussi, le jeu, j'en garde un bon souvenir, mais c'est pas non plus le jeu que, voilà, je rêve tous les jours, mais... La seule moyen en fait finalement d'avoir une trace de jeu là, ça va être la version Xbox 360 avec le support physique quoi. Et
voilà.
Et ce qui est dommage en fait,
ou alors d'être un joueur PC qui a son compte, parce que je précise, il va être retiré de Steam, mais si vous avez déjà le jeu, évidemment, vous pourrez toujours le télécharger. Il y a plein de jeux qui ont été retirés de Steam, mais ceux qui les possèdent, mais par contre, il faut que tu l'aies acheté avant quoi.
Et c'est ça qui est con, c'est-à-dire l'œuvre, on doit faire comme si elle n'avait jamais existé hein, en fait, pour limite pour des droits d'auteur et tout ça, c'est une question de gros sous qu'il y a derrière. Même tu vois, si Remedy, ils peuvent toujours renégocier les licences musicales pour éventuellement les sortir plus tard. Pour l'instant, ils ont rien négocié du tout, et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que vraiment juste pour des musiques quoi, c'est même pas comme si je sais pas, tu vois, le jeu avait volé un moteur ou un truc comme ça. Là, c'est une question en fait juste de licence musicale. Et je rappelle aussi qu'on avait déjà eu le cas avec Capcom versus Marvel 3, où les droits entre Capcom et Marvel avaient expiré. Du coup, le jeu avait été retiré des versions store sur les consoles et PC, avait été retiré de la vente dans les magasins. Et c'est que à la suite, plus tard, que quand il y a eu la renégociation du contrat pour Marvel vs Capcom 4, qu'ils ont réussi à renégocier les contrats pour le 3, et du coup il est ressorti plus tard. Mais moi je trouve ça vraiment con, que ce soit pour une œuvre de la musique ou je sais pas quoi d'autre, qu'une œuvre en fait doit être retirée parce que voilà, une licence musicale est à partir de dedans, ou bien parce qu'on parlait aussi un peu...
Imaginez GTA, hein.
Voilà, mais GTA c'est exactement le même problème. GTA il renégocie souvent les contrats musicaux, mais imagine par exemple voilà GTA 5 dans 10 ans, Rockstar ils vont pas renégocier GTA 5 parce qu'ils sont déjà à GTA 7. Du coup bah tu pourras pas rejouer à ce jeu-là parce que toutes les musiques qu'il y a, tu vois, parmi dans GTA 5, t'as au moins une dizaine de stations de radio, toutes les licences musicales qu'il y a dedans, enfin c'est un bordel sans nom. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le futur GTA 5 tu joueras sans les musiques quoi, tu vois, ils vont faire une édition spéciale. Genre tu joues et voilà. La tristesse dans la voiture.
Tu mettras ta playlist perso. Alors dans le cas d'Alan Wake, ce que je trouve rassurant quand même, c'est que le jeu était disponible sur Google Games.
Oui.
Si tu veux, il y aura un fichier qui traînera sur Internet, qui ne sera pas dépendant de Steam. C'est surtout ça, moi, qui me fait peur, en fait, parce que là, ça va. Enfin, le fichier, je veux dire, les gens l'ont, il circulera sur les réseaux underground, et les gens pourront le modifier, en fait. C'est ça, le truc. Mais par contre, il y a plein de jeux qui sont pas dans ce cas-là, qui sont liés uniquement à Steam. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que le jour où tu le retires de Steam, ben, s'il était super protégé, bon, pouf, quoi. Voilà. Rien à ajouter ?
Non, non, c'est juste triste.
Bon, allez, on va maintenant parler... Bah, on va rester dans la tristesse, hein. C'est pas le podcast joyeux cette semaine.
Non,
hein.
C'est clair.
Parce que vous allez voir, derrière, on va encore enchaîner sur une news un peu déprimante. On va maintenant parler de Square Enix. Vous savez, on est dans la période où toutes les grosses boîtes... font leur bilan financier, tu vois, ils parlent à leurs actionnaires et tout. Et on a appris au détour du bilan financier de Square Enix qu'ils allaient revendre IO Interactive, tout simplement, quoi. Alors, IO Interactive, je rappelle, c'est Hitman, voilà. Ceux qui ont développé Absolution et le dernier, là, qui est juste épisodique.
Juste Hitman.
Ouais, non, mais tu sais, à chaque fois, comme pour moi, Hitman, c'est le vrai Hitman premier, tu vois, j'ai toujours un blocage psychologique dans mon cerveau.
C'est un peu comme avec, par exemple, Tomb Raider, qui s'appelle Tomb Raider, alors que, tu vois, il y a 10 ans de différence, enfin.
Ça, c'est les blocages de vieux, on va dire. Bon, quoi qu'il en soit, mauvaise nouvelle, et surtout, pour ce qui me concerne, nouvelle surprenante, parce que, quand t'avais fait la critique... de la version épisodique du jeu, le dernier, là. On avait dit qu'il y avait une saison 2 qui était en route.
Ouais.
Tout avait l'air normal, quoi, tu vois. Ça avait l'air d'être une affaire qui tournait.
Et en plus, ils avaient l'air plutôt satisfaits.
Et ils avaient l'air plutôt satisfaits. Peut-être qu'eux, ils étaient satisfaits, mais que Square Enix, non. Parce que je rappelle que, quand même, Square Enix, hein, c'est la boîte qui était pas contente du fait que Absolution ait fait 3,6 millions. Ce qui est quand même pas mal pour un Hitman. Enfin,
c'est clair, parce que rappelons-le que les anciens épisodes, c'était des succès plus d'estime qu'autre chose, quoi.
C'était pareil avec Tomb Raider, hein, ils étaient pas contents des chiffres du premier, alors que Tomb Raider,
ouais.
C'était une licence emblématique de la PS1, tu vois, mais par la suite, je veux dire, c'est une licence qui était un peu tombée dans l'oubli, donc t'avais envie de leur dire, mais attendez les mecs... vous faites de la merde avec vos Final Fantasy et derrière vous accusez Eidos Montréal, enfin bref.
Malheureusement, tu vois, tu sens que Square Enix, ils en demandent toujours plus. Et c'est pareil, par exemple, ils ont Square Enix, c'est pas pour rien aussi qu'ils ont killé la licence Deus Ex, quoi.
Ouais.
C'est ça.
Mais c'est ce qui est hyper étonnant, en fait, c'est que cette annonce arrive au moment, en fait, où Square Enix fait vraiment un bénéfice net record cette année, avec 161 millions d'euros de bénéfice net. Et cette rupture de contrat, en fait, avec IO Interactive, ça leur a quand même coûté 39 millions d'euros, mais ils font quand même un bénéfice net de bâtard, en fait, avec
ah
ça.
Ah oui, clairement.
Et c'est ça que je comprends pas trop, en fait, parce que... Alors après, en fait, je pense que c'est purement mathématique, leur raisonnement, c'est on en veut tant, ils nous en ont donné tant de moins, donc barre-toi, en fait. Bon, après, moi, je me fais pas spécialement trop de mourons pour IO Interactive, parce qu'à mon avis, Hitman, c'est pas une licence que le monde du jeu vidéo veut laisser mourir.
Bah, la question, c'est surtout, est-ce qu'ils vont les laisser partir avec la licence?
Ah oui, non,
pour le moment, il y a un doute.
Non, mais la licence appartient toujours à... Les droits appartiennent toujours à IO Interactive, pour le moment.
Ils sont pas prononcés là-dessus, hein. Et ça serait peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça leur aurait coûté autant d'argent, hein, de terminer le contrat.
Moi, de ce que j'ai lu, apparemment, selon les rumeurs, il partirait avec la licence. De toute façon, je vois pas ce que Square Enix en ferait. Je veux dire, maintenant, Square Enix en Occident, ça va être du Marvel. Donc, voilà. Ouais. C'est un gâchis, voilà. C'est un gâchis.
Ouais, mais, et pas, et aussi, tu vois, par exemple, je parlais des Deus Ex, mais tu vois, par exemple, Square Enix, ils ont pas donné de seconde chance non plus à Sleeping Dog, alors que Sleeping Dog, c'est une licence qui était sur le début, assez prometteuse, tu vois, le premier épisode, moi, j'en ai un bon souvenir, c'était un jeu sympa, il y avait quelque chose à peaufiner, le côté GTA-like, plus combat d'arts martiaux, bah, c'était un truc déjà qui avait jamais été fait, tu vois, à ce point-là, il avait bien fonctionné pour une nouvelle licence, il avait fait, je crois, 2 millions de ventes au début, mais Square Enix, pour eux, tu vois, c'est pas assez, les mecs, ils veulent que tous les jeux, ça soit Assassin's Creed, ils font 10 millions de ventes à chaque épisode, mais c'est pas possible, laissez la licence s'installer, faites des jeux de qualité, et sur long terme, et bah...
Bon, cela dit, on peut pas leur reprocher avec Hitman, par contre, d'avoir tenté des choses. Bon, par contre, on peut leur reprocher d'avoir tenté des choses un peu douteuses, parce que visiblement, le modèle économique épisodique, c'était pas la poule aux œufs d'or qu'ils pensaient que c'était, quoi.
Ouais, ça, c'est clair que le modèle épisodique est un peu douteux. Le fait aussi que de l'épisode d'auparavant Que je trouve bon demeurant, mais ils ont voulu faire de Hitman un bête TPS action, alors que c'est pas du tout dans l'esprit Hitman, tu vois. Hitman, c'est vraiment un jeu d'infiltration où tu prends ton temps, analyser les situations, alors que là t'avais vraiment des niveaux, c'était des TPS à la con, et alors que Hitman c'est pas du tout ça. Hitman, tu joues vraiment, voilà, tu dois trouver le moyen d'atteindre ta cible. C'est un jeu d'observation plus que d'action. Là, Hitman, ils ont dit, bah en fait, c'est pas Hitman que tu joues à Max Payne limite. Alors,
alors après, toi, ATH, je crois que bon, on en a discuté un peu avant. Ça dérange pas fondamentalement que la licence en elle-même disparaisse, parce que c'est vrai que bon, d'Hitman, on a un peu eu Whatmill.
Mais c'est pas que pour Hitman, hein. C'est pour toutes les licences en fait, qu'ils ont fait un peu le tour. Enfin, ça dépend, tu vois, par exemple, des licences comme dans les GTA, les Final Fantasy, où à chaque fois ils reprennent un nouvel univers, hein, des nouveaux personnages.
Et c'est des jeux, si ça appelait pas Final Fantasy, voilà. Tu dirais ils ont rien à voir entre eux de toute façon. Donc,
exactement. Et ça, pour moi, ça me dérange pas, tu vois, non plus que ça, parce que c'est vraiment des nouvelles histoires, etc. Mais par exemple, quand c'est des jeux que ça soit Max Payne, des jeux comme ça, Tomb Raider et tout, où t'as 15 épisodes sur une même licence, et au bout d'un moment, je pense que après 3 jeux, on devrait laisser des licences se reposer un petit peu et prendre des nouvelles licences, enfin, apporter un peu de nouveau sans frais, c'est tout, tu vois.
Pour moi, là où ça pose problème, c'est que Hitman, c'est l'une des dernières licences grand public, on va dire, de jeux d'infiltration. Et s'il disparaît, ben, il reste quoi? Enfin, je veux dire, Metal Gear a pu, Hitman a pu, il y a Six, hein, mais c'est du double A, quoi. Enfin, c'est pas un triple A, Six, donc.
Après, t'as plein de jeux qui reprennent des mécaniques infiltration, même si c'est pas vraiment des jeux d'infiltration à proprement parler. Par exemple, les Batman Arkham, etc. T'as un petit côté infiltration, tout ça, mais c'est pas vraiment des
ouais,
jeux.
Ouais, mais bon, tu vois, c'est pas ce genre de jeu qui va satisfaire le mec qui veut du jeu d'infiltration. C'est comme Dishonored. Enfin, j'adore Dishonored, mais l'intérêt, c'est que c'est une approche à la Deus Ex, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, en fait. C'est, tu veux faire l'infiltration, tu peux faire l'infiltration. Et c'est ça qui est grisant dans un Dishonored ou un Deus Ex. C'est pas qu'il y ait que de l'infiltration. Et d'ailleurs, c'est pas des jeux d'infiltration hyper poussés non plus. C'est le fait que ça soit un tout. Si tu veux être super bourrin, bah, tu peux être super bourrin. Si tu veux te la jouer subtil, tu peux jouer subtil. Il n'y a plus trop de vrais jeux purs d'infiltration, en fait.
Bah ouais, après, ouais, bah, comme tu l'as dit, bah, Metal Gear Solid, c'est fini, quoi. Enfin, le dernier qui avait un très bon gameplay, je trouve ça dommage qu'ils reprennent pas, tu vois, même, je sais pas, une autre licence, mais dans le concept de Metal Gear, même si ça s'appelle pas Metal Gear, mais qu'ils reprennent un peu les bases qui avaient été faites dans Metal Gear, parce que je trouvais ça super intéressant comment ça avait été fait. Et du coup, ouais, le joueur infiltration est un peu mourant.
Cela dit, je te rappelle qu'on a eu une discussion récemment dans les commentaires de l'émission.
Oui, non, mais
vous a démontré quand même que, enfin, ce que tu disais, tu vois, enfin, disons que la philosophie infiltration est toujours présente dans le jeu vidéo.
Voilà.
Mais que l'infiltration en tant que genre très codifié, ben, où tu ne fais que ça, en fait. Mmh. C'est ça le truc. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas des purs jeux d'infiltration, quoi. Enfin, qu'on n'en ait plus autant. Il y a des super jeux comme Six, et moi j'adore Six, parce que c'est vraiment un jeu d'infiltration, qui essaye des petites choses, etc., où il y a du coop en plus dessus et tout. Mais franchement, quand tu me dis infiltration aujourd'hui, en dehors de Styx, je t'avoue que j'ai pas des noms qui me viennent comme ça. En tout cas, sur les grosses productions, enfin des productions un peu ambitieuses.
Tu vois, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de jouer à Persona 5. Tu dois t'infiltrer tout ça en prenant les ennemis par derrière, et justement pour avoir un avantage sur le combat. Mais pour moi, tu vois, enfin, Persona 5, je vais jamais me mettre dans l'esprit que c'est un jeu d'infiltration, quoi. Il y a quelques, voilà, des mécaniques par-ci par-là.
Bon, après, il y a Persona 5, mais il y a des jeux qui poussent quand même beaucoup plus le côté infiltration, et qui pourraient être des jeux d'infiltration. Si derrière qu'il y avait pas d'autres mécaniques qui venaient contredire l'aspect infiltration, qu'on va dire.
C'est ça, parce que tu as cité par exemple les jeux comme Dishonored ou bien Prey ou même encore Deus Ex, c'est des jeux hybrides. Moi, je préfère très simplement jouer infiltration quand je joue à ces jeux-là, mais c'est vrai que infiltration pure et dure, c'est un petit peu la fin, quoi, de ce genre de jeu-là. Mmh. En termes de triple A, comme tu l'as dit. Mais après, c'est vrai qu'il y a, à part Styx, quoi, il y a plus personne qui vient avec un nouveau Splinter Cell comme ça avait été fait à l'époque, en se basant uniquement sur l'infiltration. Et c'est ça qui est un petit peu dommage aujourd'hui, alors j'aimerais bien que ça revienne, quoi.
Ouais. Bon, allez, on va terminer avec Mass Effect, qui retourne au frigo ATH.
C'est ça, Mass Effect Andromeda, qui apparemment, selon Electronic Arts, a fait des très bons résultats sur Metacritic, même si, voilà, il y a eu des gens qui étaient un petit peu mécontents. Mais le jeu, en fait, n'a pas apparemment rencontré le succès escompté par rapport à ce qu'ils attendaient de Mass Effect Andromeda. Et donc, du coup, bah, le studio qui a développé Mass Effect Andromeda, donc qui est BioWare Montréal, va aller donner un coup de main pour Star Wars Battlefront 2 et assister DICE, en fait, pour le jeu. Mmh. Et du coup, bah, l'équipe est complètement éclatée, ce qui fait que le studio, en fait, qui avait été créé par rapport à ça, bah, n'existe plus tel quel, en fait.
Mmh, voilà. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Enfin, à mon avis, il y a plein de gens qui vont être contents quand ils vont entendre ça. Ils vont se dire, bien fait, tu vois, avec toute la merde qu'ils ont fait sur Mass Effect, allez, tiens. Mais ce qu'il faut réaliser quand même, c'est que quand il y a un projet qui a abouti à ça, c'est peut-être pas les employés qu'il faut remettre en cause, mais la manière dont le projet a été géré. Et moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette remise en cause là, en fait. Parce que s'ils avaient vraiment réfléchi, mais est-ce que peut-être, tu vois, au lieu de forcer les mecs à sortir leur jeu à telle date, il aurait fallu attendre quelques mois pour qu'ils finissent de polish le jeu? Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils ont fait avec Mass Effect Andromeda, mais j'ai envie de dire, à la limite, on s'en fout, c'est pas un jeu qui nous parle très bien. Mais par contre, ce qui n'est pas acceptable dans tous les cas, c'est l'état dans lequel est sorti le jeu, quoi. Et ça, j'ai pas l'impression que chez Electronic Arts, on remette en cause ça, quoi, finalement. Et on sanctionne les employés, on leur dit au revoir, et puis merci, quoi.
Mass Effect Andromeda, déjà, c'est un jeu qui a eu un développement assez chaotique, qui a duré très longtemps. On se rappelle tous, d'ailleurs, d'Halo 3, quand il avait été annoncé, c'était des pauvres développeurs dans leur bureau, dans le noir. Ils montraient trois pauvres images du jeu, et il y avait rien du tout, quasiment. Le jeu, il a vraiment traîné sur la longueur. Et là, tu vois vraiment qu'une Electronic Arts, en fait, ils en avaient marre. Et ils ont dit, vous balancez le jeu à telle date. Et puis maintenant, en fait, le jeu se fait régulièrement patcher. Là, on est au patch 1.6, mais c'est pas des petits patchs. À chaque fois, c'est des gros patchs qui viennent. Bah, par exemple, on a eu déjà le premier patch qui avait corrigé un peu tout ce qui était problème de synchronisation labiale et tout ça. Mmh. Alors que le jeu est déjà sorti depuis un petit moment. Mais tu vois vraiment que le mec, il continue encore à bosser là-dessus parce que le jeu, il manque clairement de polish là-dessus, quoi.
Mmh. Sans dire en passant, j'ai un message à faire passer. Mamie, j'avais raison. Non, parce que je me rappelle très clairement d'une discussion dans ce podcast avec mamie où je disais, je sais pas, le fait qu'il retarde le jeu comme ça, qu'il donne pas de nouvelles, ça m'inquiète et tout. Mamie, j'étais là en mode confiant et tout. Mais non, ça va bien se passer. Tu verras Mass Effect le 7 novembre. Ils vont annoncer des trucs. Alors effectivement, ils ont fait des trucs le 7 novembre, mais on a vu le résultat final, quoi. Marwan, une réaction peut-être?
Bah, en fait, moi, ce qui... Enfin, je suis pas spécialement surpris, mais en fait, le truc, c'est que faut pas oublier que si ce Mass Effect Andromeda a été développé de cette manière, c'est aussi parce que ça a été une commande de la direction, quoi. Si c'est un copier-coller de Dragon Age Inquisition, c'est peut-être pas forcément parce que BioWare Montréal a dit « ça va être comme ça ».
Alors, je précise, quand on dit copier-coller, c'est dans la structure, parce que on va venir nous dire dans les commentaires, je sens, oui, mais d'un point de vue gameplay, c'est pas pareil. Oui, vous avez raison, c'est pas pareil d'un point de vue gameplay.
Voilà, sur la structure. Mais après, moi, ce qui me gêne, c'est surtout que, on dise que c'est de la faute des employés, quoi. Et que, du coup, on les sanctionne de cette manière-là. Ouais, c'est clairement, moi, c'est ça que je retiens de cette histoire, en fait. C'est pas réglo.
Bon, soit dit en passant, ils sont pas virés, hein, mais c'est juste que, enfin.
Non, mais on sait très bien que ça va aboutir à des gens qui vont quitter la boîte, quoi.
On les a foutus dans un placard, les mecs. Enfin, ce qui est frustrant, si tu veux, moi, je me mets à la place d'un employé. Enfin, on te fait sortir de ton rôle de support, parce qu'il faut bien voir ça, c'est que jusqu'à maintenant, c'était le studio de support d'Electronic Arts. Ouais. Et qu'on te dit, ah, ça y est, bon, on va enfin te donner ton projet à toi, et que tu vois que le projet, il échoue, et qu'on te dise, bah non, bah du coup, t'as fait de la merde, connard, tu retournes faire du support, c'est un peu humiliant, quoi.
Et surtout que, ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, Mass Effect Andromeda, c'était le départ d'une nouvelle trilogie, en fait. Du coup, pour ceux qui ont bien aimé Mass Effect Andromeda, bah voilà, c'est un peu comme nous avec Deus Ex, quoi. Deus Ex, il manque le dernier chapitre, ça prend le même chemin, sauf que là, Mass Effect Andromeda, c'est au premier épisode. À la place de dire, on va donner une deuxième chance au studio... pour qu'ils puissent faire un Mass Effect Andromeda 2 qui corrige les défauts du premier et en essayant vraiment d'aller dans une direction où on va vraiment voir ce qui clochait dans le premier épisode pour vraiment faire quelque chose de bien. Et puis si les gars ça marche pas, bah on arrête la licence. Là non, ils ont dit on n'a pas réussi à en vendre beaucoup, bah c'est de votre faute. Et puis bah voilà, du coup les pauvres, quoi, ils vont devenir support du studio qui font Battlefront 2, mais c'est pas leur projet à eux, tu vois. Moi je pense que en tant que développeur, c'est beaucoup plus gratifiant de travailler sur ton propre jeu que d'aller travailler pour un jeu d'une autre boîte. Et justement après, tu vois, les louanges, ça va pas retomber sur eux, ça va retomber sur le studio qui a développé Star Wars Battlefront 2 et pas...
Alors qu'il y a des studios prestataires qui font un travail qui est essentiel pour que le jeu aboutisse, tu vois.
Mais juste
un exemple comme ça, tu vois, combien de jeux seraient sortis dans un état foireux s'ils avaient pas eu l'aide de Naughty Dog?
Oui.
Par exemple.
Même par un jeu comme Red Dead Redemption, ils n'arrivaient pas à le faire tourner sur PS3. C'est des mecs de Naughty Dog partis voir les mecs de chez Rockstar et ils leur ont expliqué un peu, voilà, des astuces techniques et tout ça pour justement pouvoir mettre le jeu sur la PlayStation 3. Mais même, tu vois, même en parlant de Ubisoft, Il y a combien de succursales Ubisoft Montréal, Ubisoft Maroc qui a fermé, il y a
Shanghai,
Roumanie, enfin il y a plein d'Ubisoft là-bas.
Paris, voilà.
Et il y a et du coup il y a plein de petites mains qui sous-traitent certaines tâches du jeu vidéo, et du coup en fait ces studios-là on n'entend jamais parler parce que c'est pour eux, c'est pas eux les vraiment, tu vois, par exemple, quand on te parle d'un nouvel Assassin's Creed, en général on te met en avant Ubisoft Montréal présente, alors que oui il y a Ubisoft Montréal, mais faut pas oublier que derrière il y a d'autres studios d'Ubisoft qui sont là-dessus, tu vois.
C'est ça. Voilà, voilà. On va passer à notre jeu du moment. Et notre jeu du moment, c'est un accès anticipé auquel j'ai joué pas mal d'heures. Et ce jeu, c'est Dead Cells. Vous revoilà donc pour la critique de Dead Cells. Une petite information, Mordred n'est plus là. Et pourquoi il n'est plus là? Parce qu'on a eu un petit souci.
Décidément, on est maudit. Hein.
Ah oui, non, mais on est bien maudit. Il se trouve qu'il y a une coupure d'électricité générale dans mon quartier. Et que Mordred, malheureusement, devait aller vaquer à d'autres occupations. Il est parti entre temps, l'électricité est revenue, vous avez de la chance, parce qu'il se trouve que ce très cher Audacity a conservé le fichier malgré la coupure d'électricité. Dans notre malheur, on a eu du bol, en plus c'est tombé pile poil au moment de la critique de Dead Cells. Voilà, bon, on continue, hein, on va essayer de faire la critique dans des conditions normales. J'espère que vous avez bien profité de la voix de Mordred, parce que vous ne l'entendrez pas de sitôt.
Mais la vraie raison, en fait, de cette coupure, c'est parce que dans les commentaires, la dernière fois, tu penses que c'est anodin, cette coupure d'électricité, mais il y a Shadow Mario qui a parlé de la Wii U, et je pense que Nintendo, ils ont pas trop aimé, donc ils ont envoyé faire une petite coupure de courant.
Chez moi.
Ils ont dit, non, la Wii U, hop.
Et lui, nous fait chier, le tyran, là, allez, hop.
La Wii U n'a jamais existé.
Et Darksiders 2 sur Wii U, il arrive quand Il y a des questions qu'il faut pas poser comme ça. Bon, allez, on va maintenant passer à ma critique de Dead Cells. Dead Cells, pour rappel, je vous l'avais déjà présenté durant sa campagne Greenlight. Il avait été validé et il devait sortir en accès anticipé. Ça y est, il est disponible, j'ai pu mettre la main dessus et je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, en tout cas pour le moment. Comme d'habitude, dans le cas des projets Greenlight, je rappelle que le jeu est en cours de conception, donc c'est un avis qui ne se veut absolument pas définitif, ce sont juste mes impressions du moment. Donc, pour rappel, le jeu se présente comme un Rogvania, donc Rogue pour Roguelite, Vania pour Castlevania.
Genre épisode NES, Super NES ou ça?
Oui, voilà. En tout cas, tel que je perçois le jeu actuellement, je le trouve bien plus proche d'un Castlevania Symphony of the Night que d'un Metroidvania. Alors c'est vrai que durant la campagne Greenlight et même sur la page Steam actuelle du jeu, les développeurs revendiquent ouvertement leur inspiration vis-à-vis des Metroidvania. Par contre, vous allez voir qu'on est vraiment dans l'ordre de l'inspiration et que d'un point de vue structurel, en tout cas, il y a un certain nombre de critères que le jeu ne remplit pas et qui sont inhérents au genre Metroidvania. Donc c'est un jeu en 2D vu de côté, c'est un jeu où vous allez charcler énormément de mobs, où il va y avoir énormément de loot, où il y aura quelques phases de plateforme, ma foi, assez sympathiques. Par contre, c'est aussi un jeu où le scénar n'est pas franchement présent. On va même dire qu'il tient sur un timbre-poste. Je veux dire, la narration actuellement, c'est un PNJ en début d'aventure qui te balance deux phrases. Voilà. Donc voilà, Rolly Jeunesse, merci de circuler, il y a rien à voir. En tout cas, pour le moment, peut-être que ça sera amené à évoluer. Je rappelle qu'il s'agit d'un accès anticipé, même si personnellement, j'en attendrai pas grand-chose de ce côté-là, pour être très honnête avec vous. Donc, pour revenir à cette histoire de Metroidvania, c'est vrai que, au premier abord, comme ça, on pourrait se dire quand même ça y ressemble un peu. Déjà, c'est un jeu qui est divisé en tableaux où il y a sur chacun de ces tableaux une thématique, voilà, d'un point de vue visuel, graphique, etc. Chaque tableau propose plusieurs sorties qui mènent vers un autre tableau. Sachant qu'en plus, certaines de ces sorties ne sont accessibles que à l'aide de certains pouvoirs que tu vas débloquer au fur et à mesure de ta progression. Sauf que c'est un jeu déjà qui est extrêmement linéaire, à savoir que la porte A mènera toujours vers le niveau 2 et la porte B mènera toujours vers le niveau 3. Et je parle bien de niveau, parce que une fois que tu as passé une porte, tu ne peux pas revenir en arrière. Et en plus...
Ah oui, parce que en fait, tout l'intérêt des justement des jeux comme Metroid et les Castlevania comme ça, là, c'est qu'il y a beaucoup de backtracking, donc de retour en arrière. Tu pouvais pas explorer à fond parce qu'il te manquait... t'avais pas un pouvoir pour accéder à certaines zones. Là, du coup, même si on peut pas le fait de juste revenir en arrière, ça limite un peu l'aspect Metroidvania, quoi.
Bah, c'est pas du tout un Metroidvania, ouais, de toute façon, clair. Ne serait-ce que dans les pouvoirs, en plus. Un Metroidvania, c'est quoi aussi, au niveau des pouvoirs? Le pouvoir que tu débloques, normalement, dans un Metroidvania, c'est un pouvoir qui va enrichir ton gameplay, quoi, si tu veux.
Ouais.
C'est-à-dire le double saut, ou les super missiles, ou ce genre de choses. Là, c'est pas ça. Ça fonctionne comme des clés, si tu veux. C'est-à-dire que ce sont pas des pouvoirs qui vont enrichir ton gameplay. Le premier pouvoir que tu débloques, il y a certains endroits, en fait, où tu peux faire pousser des espèces de lierres, quoi, si tu veux. Tu vas pouvoir grimper dessus pour accéder à une zone. Mais ce pouvoir ne fonctionne que à certains endroits précis. Donc, en fait, c'est comme une clé, quoi, si tu veux. C'est pas comme dans un Metroidvania où le pouvoir que tu débloques a un impact direct sur ta manière de jouer, quoi. C'est des clés sous une autre forme, quoi, on va dire.
Ouais, c'est ça, oui.
Pourquoi j'insiste là-dessus aussi? Parce que le jeu a beaucoup été décrit comme un Metroidvania, et je veux vous montrer que c'est pas le cas, en fait. Il est beaucoup plus semblable à un Castlevania à l'ancienne, où on te donnerait le choix du niveau que tu vas prendre à la fin. L'idée, en fait, si tu veux, de ce jeu, c'est que le backtracking va se faire automatiquement, quoi, on va dire, à chaque fois que tu vas crever, et que tu vas recommencer le jeu depuis le début, et du coup, tu vas dire, ok, là, je vais pouvoir utiliser ce pouvoir-là. Comme c'est un jeu qui est généré procéduralement, les niveaux sont toujours différents. Donc, il n'y a pas cet aspect des Metroidvania, tu sais, permanent, où en fait, à un moment donné, t'as pas pu accéder à une zone, et tu te dis, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, en fait.
Ah oui.
Bon, t'auras toujours dans la zone 1 le fait qu'il va falloir utiliser la clé pour ouvrir une nouvelle zone.
Ouais.
Mais elle sera jamais au même endroit, en fait. Donc, du coup, t'as pas tout cet aspect mémorisation qu'il y a dans un Metroidvania.
Ouais, parce que, en fait, ce qui faisait la force aussi de ces jeux-là, à l'époque, là, par exemple, on parle beaucoup de Metroid et Castlevania, c'était le level design aussi qui a été travaillé. Alors que là, vu que c'est un aspect plus aléatoire, je pense que le level design est beaucoup moins travaillé que sur ces deux exemples.
Alors, je précise, c'est pas aléatoire, c'est procédural, oui. C'est pas tout à fait la même chose. Dans le procédural, il y a l'idée quand même que ça peut donner des structures intéressantes, quoi. Et il y a des structures qui sont pas mal dans ce jeu, en l'occurrence. Donc voilà. Une fois posé que ce n'est pas un Metroidvania, il faut tout de suite enchaîner sur une chose. Une fois que tu as fini donc un tableau, quoi, on va dire, tu passes dans une zone, en fait, où tu vas pouvoir dépenser tes âmes. Ils ont appelé ça autrement, mais c'est des âmes comme dans Dark Souls. C'est des cellules, en fait, d'où le nom, Dead Cells.
Ouais.
Quand tu vas buter un ennemi, il va te dropper des plans, en fait, et ces plans vont te débloquer des nouveaux pouvoirs, des nouvelles armes, des nouveaux objets utilitaires, tu vois, ce genre de choses. Du coup, tu vas pouvoir dépenser tes âmes pour améliorer une arme de façon permanente, améliorer un pouvoir de façon permanente, débloquer certaines options du jeu. Par exemple, le fait, tu sais, que quand tu crèves, tu conserves une partie de ton or.
Ouais.
Le fait aussi que quand tu crèves et que tu recommences le jeu, au lieu de te donner le choix entre deux armes toutes pourries, tu vas débloquer la possibilité qu'une arme aléatoire parmi toutes celles que tu as débloquées pop, en fait.
D'accord.
Il y a une philosophie de mort à la Dark Souls qui est très différente des roguelites classiques.
Ouais.
Il y a deux philosophies de roguelites. T'as les roguelites à l'ancienne où la mort est permanente et où t'as rien quand t'es mort.
Oui.
Où c'est vraiment t'es mort. Et il y a les roguelites où tu gardes une part de progression.
Un peu comme roguelite classique, quoi.
Voilà. Et là, les mecs, ils se sont dit, tiens, si on mettait du Dark Souls là-dedans, dans cette mécanique de mort. Et l'idée, en gros, c'est que, entre chaque niveau, il va falloir que tu atteignes l'interzone suivante, pour aller discuter avec un mec qui va te permettre d'upgrader ton personnage.
Ouais.
C'est nouveau, c'est innovant, et je trouve que c'est intéressant parce que ça t'incite à faire des choix dans tes runs. Et c'est-à-dire qu'il y a des moments où, plutôt que de nettoyer le niveau à fond, tu vas te dire, est-ce qu'il vaut mieux pas que je rush le niveau pour passer à la zone suivante, en fait. T'as droppé un plan super rare, imaginons, tu vois, une nouvelle arme que t'as envie de tester, et le problème, c'est que tant que t'arrives pas à la zone suivante, le plan, il reste dans ton inventaire, et si tu crèves avant d'arriver à la zone suivante, bah le plan, il est définitivement perdu. Il faudra le redropper après.
Ouais.
C'est vraiment une philosophie très Dark Soulsienne, quoi. C'est-à-dire que il y a cette idée du bonfire que tu vas aller chercher, et il y a des moments où faut que tu fasses des choix de dans tes runs, quoi.
Et même, je trouve que c'est encore un peu plus vicieux que dans Dark Souls, parce que enfin dans Dark Souls, tu vois, tu peux t'amuser à nettoyer un niveau jusqu'au prochain feu, parce que enfin Dark Souls, tu perds juste des armes et tout ça, mais là tu perds des armes, tu repères ta progression dans le jeu, et du coup en fait t'es obligé de recommencer. Mais sauf que tu vois, dans Dark Souls, on va dire que les armes sont à peu près à un endroit fixe, alors que là tu sais pas sur quel item tu vas tomber ni quel chemin tu vas avoir. Enfin, c'est un aspect un peu plus vicieux, on va dire, que Dark Souls.
Voilà. Sachant qu'en plus, autre truc qui fait vachement penser à Dark Souls, le système de potions. J'ai eu des débats assez enflammés où on disait des choses sur lesquelles les gens n'avaient pas tort, tu vois. Ils disaient, oui, maintenant on appelle le Dark Souls tout et n'importe quoi.
Ce qui est un peu vrai des fois.
Bah, c'est vrai que les gens ont tendance à dire, ah oui, ça vient de Dark Souls. Alors qu'en fait, c'est des choses qui viennent de jeux sur lesquels Dark Souls a puisé son inspiration.
Oui.
Dark Souls, il sort pas de nulle part. Il y a très clairement des influences de Metroidvania dans la structure des jeux. Il y a des influences de Castlevania qui sont assez nettes dedans. Enfin,
c'est
série qui sort de n'importe où.
Mais après, on va dire que c'est la série en fait qui, ces dernières années, qui a marqué. Et du coup, en fait, les gens, quand ils vont s'inspirer de Dark Souls, ils vont s'inspirer parce que Dark Souls, c'est lui qui a marché ces dernières années. Ils vont pas s'inspirer d'un truc assez obscur qui est sorti par exemple dans les années 90, dont Dark Souls a repris un concept. Et c'est pour ça qu'on parle de Dark Souls, mais c'est pas vraiment.
Sauf que là, il y a quand même des trucs qui sont très codifiés, et quand tu les vois, tu dis, ça, c'est Dark Souls.
Ouais.
Pourquoi je dis que c'est une fiole d'Estus? Alors, déjà, c'est une fiole qui commence avec une charge, et les charges, tu vas pouvoir les débloquer. Il y a un temps de latence quand tu vas l'utiliser. Le personnage sort la fiole et il la boit.
Ouais.
Donc, c'est pas une fiole que tu vas sortir quand t'as 3 milliards d'ennemis autour de toi, quoi, on va dire. Ensuite, la fiole d'Estus, une fois utilisée, elle se vide au fur et à mesure, c'est-à-dire que, tu sais, t'as l'icône de la fiole d'Estus, si t'as deux charges, imaginons, dessus, tu utilises une charge, tu vois l'icône qui commence à se vider, quoi, si tu veux.
Ouais, genre, ça devient, par exemple, si t'as deux charges maximum, après, ça fait, tu bois une fiole, ça revient à la moitié, quoi.
Voilà, c'est ça. Ensuite, la fiole, une fois que t'as utilisé toutes les charges, ben, y a aucun moyen de la recharger jusqu'au niveau suivant. En gros, il faut arriver au bonfire pour la recharger.
C'est ça.
Bon, sauf que là, c'est représenté par une espèce d'alambic dans lequel tu mets ta fiole. Et accessoirement, quand tu recharges ta fiole, bah ça recharge ta vie aussi à fond. Comme dans Dark Souls avec les bonfires. Donc, c'est pour ça que je dis que la santé fonctionne exactement comme dans Dark Souls. Et là, ATH, je vais parler d'une mécanique de santé qui va te parler aussi. Dead Cells, c'est un jeu où quand un mob te donne un coup, si tu réattaques derrière le mob, tu vas récupérer une partie de ta vie.
Ouais, ouais, Bloodborne.
voilà.
Je pense que t'allais me dire ça, t'as pensé à quelque chose, j'ai répondu trop vite.
Et
désolé.
Voilà, bah oui, Bloodborne. Et du coup, ça a une influence sur le gameplay. C'est-à-dire que tu l'imagines bien, le fait de pouvoir récupérer une partie de ta santé, comme dans Bloodborne, ça veut dire que c'est un jeu qui t'incite à aller très sur l'offensive.
C'est ça.
À être très dans l'action, en fait. Mais par contre, c'est un jeu aussi qui t'incite à faire des choix. Si ta mécanique de santé fonctionne avec un nombre de fioles maximum et que tu peux pas avoir 99 potions sur toi, au bout d'un moment, il faut que tu fasses gaffe.
Bah oui.
Il faut que tu fasses des choix. Il faut que tu dises à un moment donné, ok, là, il faut que je rush. Il faut que j'avance pour passer à la zone suivante et sécuriser le nombre d'âmes que j'ai accumulées, sécuriser les plans que j'ai débloqués. Ce que je trouve intéressant dans ce jeu-là, c'est que ils ont bien compris que leur jeu, il fallait que les gens speed, en fait.
Ouais.
Et du coup, ils mettent en place toutes les mécaniques nécessaires pour t'inciter à aller de l'avant, en fait. Autre mécanique qui me fait dire ça, il faut savoir que dans le jeu, il y a des portes spéciales. Et ces portes, elles ont un timer sur elles. Et ce timer, en fait, il va dire au bout d'un moment, si t'arrives pas avant 2 minutes à cette porte-là, bah la porte elle est bloquée définitivement.
Mais c'est-à-dire, genre tu peux plus sortir du niveau, quoi ?
Non, non, c'est pas ça. C'est des portes où il va y avoir masse de thunes.
Ah oui, ok.
Il va y avoir des plans qui vont te débloquer de nouvelles armes.
C'est des récompenses, quoi.
Voilà. C'est des récompenses pour le joueur qui va speeder.
D'accord.
Donc, vous voyez que c'est un jeu qui incite à être dynamique, quoi. Et forcément, pour que ça marche, il faut que t'aies un système de combat derrière qui tienne la route, quoi. Et ça, c'est, à mon sens, l'immense force de Dead Cells. C'est un jeu avec un système de combat ultra péchu. C'est un des rares genres de dés qui t'incite à utiliser vraiment la roulade, étudier vraiment les patterns de tes ennemis, à passer derrière eux, à aussi gérer le crowd control, c'est-à-dire qu'il y a des moments où va y avoir 3 milliards d'ennemis qui vont tomber dessus, il va falloir les gérer. C'est un jeu qui a énormément de feedback visuel, de feedback sonore, où tu sais, quand tu pètes un ennemi, tu sens que tu l'éclates, quoi, tu vois.
Ouais, t'as pas l'impression qu'en fait tu mets des coups dans le vent, quoi.
Voilà. Une fois cela dit, donc, on a un jeu super dynamique, où on enchaîne les niveaux, où ça va très vite, qui incite à aller de l'avant. Donc vous me direz, tout va bien. Alors je nuancerai un peu, parce que pour moi, il y a quand même un problème, c'est que, je vais être très honnête avec vous, Dead Cells, je pense pas que c'est un jeu dont je vais finir l'accès anticipé, et d'une manière générale, je pense pas que c'est un jeu que je finirai un jour, en tout cas si le jeu reste tel quel. Pourquoi ? Parce que même si le système de combat est super jouissif, super plaisant, j'ai un problème avec le jeu, c'est que je trouve pas assez varié, en fait. En tout cas, je trouve trop axé combat, si tu veux. C'est un jeu où t'as un perso qui répond au doigt et à l'œil, et je trouve justement dommage qu'il n'exploite pas le fait que t'es un perso, tu sais, qui soit aussi fluide dans ses mouvements et qui incite vraiment à aller de l'avant pour mettre des phases de plateforme intéressantes. C'est-à-dire que contrairement à un Rogue Legacy, par exemple, qui va te mettre beaucoup de phases de plateforme, y compris durant les combats contre les boss, je trouve que Dead Cells incite un peu trop sur le côté action, porte, monstre, trésor de la chose, et que il profite pas assez du fait que justement il a un gameplay de plateforme cool pour te mettre des phases de plateforme un peu plus présentes, et du coup qui permettrait déjà de varier l'expérience de jeu. Ensuite, autre problème que j'ai avec ce jeu, mais là, c'est un problème qui est plus personnel, quoi, on va dire. Je n'aime pas sa structure en rail. Certes, les décors sont générés procéduralement. Certes, il va falloir explorer un peu, tu vois, pour arriver à la zone suivante. Certes, à la fin de chaque zone, on va te donner le choix entre le chemin A ou le chemin B. Mais par contre, j'ai toujours cette sensation de répétitivité, en fait. Alors, tous les jeux sont répétitifs, mais là, si tu veux, le fait de revoir toujours les mêmes décors, le fait de pas pouvoir planifier ma route comme dans un Metroidvania, en fait, ça me frustre un peu, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai une impression de redondance qui, moi, personnellement, me lasse, mais qui, par contre, je pense, ne lassera pas le joueur typique de Castlevania qui n'est pas dérangé par le fait de recommencer 36 fois le même jeu parce que il prend tellement plaisir sur le jeu, sur les combats, etc., que bah, il passe un bon moment, quoi, en fait.
Et du coup, aussi, peut-être que c'était un petit peu... Cette déception vient un petit peu aussi du fait de tes attentes. Peut-être que toi, tu t'attendais vraiment à un Metroidvania dans l'esprit.
Alors, c'est par rapport à mes attentes de joueur en général, quoi, si tu veux. Parce que moi, tu sais, depuis le départ, j'étais très dubitatif sur le côté Metroidvania, etc. Ne serait-ce que parce que, pour moi, un Metroidvania avec du procédural, ça n'a aucun sens. L'intérêt des Metroidvania, si tu veux, c'est que t'as un design très léché derrière, qui fait que quand tu vas arriver à une zone, tu vas dire « Ah oui, ça, il faudra que je le retienne pour plus tard. » Tu sais, t'as tout ce côté de mémorisation dans les Metroidvania où les développeurs te montrent des choses ou que tu ne peux... Enfin, en tout cas, qui est extrêmement difficile à reproduire dans un jeu procédural.
Ouais, et puis ici, il y a beaucoup de narration environnementale qui est fait à la main, tu vois. Parce que en général, c'est des jeux où il n'y a pas beaucoup de personnages qui dialoguent entre eux et tout ça. Et donc, t'as beaucoup de situations qui te font comprendre des choses sans vraiment passer par des phases de dialogue ou ce genre de choses-là, quoi.
Donc voilà, Je me rends compte qu'avec l'âge, j'ai des préférences et que les jeux vraiment... Enfin, je vois les jeux auxquels je joue. C'est-à-dire, c'est quoi les jeux que j'aime ? C'est Deus Ex, c'est Metroid, c'est Dark Souls. Enfin, tu vois, il y a un pattern commun là-dedans. Enfin, c'est des jeux, si tu veux, qui ont une certaine philosophie de game design. C'est des jeux qui laissent une énorme part d'application aux joueurs, entre guillemets. Et je me rends compte que avec l'âge, les jeux, tu sais, très à l'ancienne comme ça, très linéaires, très sur des rails, ça me convient moins en fait.
Un jeu, par exemple, je sais pas, très linéaire, par exemple comme Uncharted, ça te conviendrait pas quoi.
Uncharted, je pense que ça passerait. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu popcorn, c'est-à-dire que c'est le jeu, tu le fais, c'est bouclé en moins de 10 heures, et puis voilà quoi, t'as passé un bon moment et tu passes à autre chose. Ça me pose pas de problème. Là, le problème dans Dead Cells, c'est que tu recommences depuis le début.
Ah d'accord, ouais.
Donc voilà, vous l'aurez compris, bon... Dead Cells, moi, c'est un jeu, je pense que je le recommanderais. En tout cas, je le recommanderais à un certain public, c'est-à-dire les gens qui adorent les jeux d'action en 2D. Parce que, pour le coup, c'est un putain de jeu d'action en 2D. C'est un jeu où tu débloques des pouvoirs qui sont assez cool. Moi, le moment où j'ai débloqué le pouvoir qui te téléporte derrière ton ennemi, j'étais heureux, quoi. Surtout qu'il y a toute une notion de build derrière que je trouve assez intéressante. Par exemple, le fait de combiner le pouvoir de téléportation avec la dague qui te permet de faire des dégâts critiques quand tu attaques quelqu'un par derrière, c'est très puissant. Et c'est un jeu, en fait, où au fur et à mesure, tu vas enrichir ton arsenal, où tu vas enrichir tes possibilités de gameplay, et où, voilà, enfin, ça va être très fun. Par contre, moi, j'ai une dernière critique à formuler, et je sais pas si c'est moi ou si c'est un problème du jeu. Tu sais, dans les roguelites, souvent, t'arrives à un moment où tu as des builds que tu préfères à d'autres, quoi, on va dire.
Oui.
Et que tu attends avec impatience le moment où tu vas enfin tomber sur ce build-là. Le problème, c'est que généralement, ces trucs-là, ça arrive très tard dans les roguelites. C'est, tu sais, le moment où on va dire que t'es vraiment dans le dernier carré du jeu, quoi, où t'as débloqué plus ou moins tous les items de disponibles, quoi, on va dire, et où tu connais le jeu, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas, et donc t'as des fois cette frustration qui commence à pointer, où tu te dis « Oh merde, pas cette arme, fais chier, quoi. » Et là, mon problème, c'est que Dead Cells, au bout de 2 heures, j'avais déjà cette sensation. Au départ, je me suis dit « Attends, est-ce que c'est parce que le jeu ne se renouvelle pas assez ? D'où ça vient, en fait ?» Et au départ, je pensais que c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'armes, etc. Mais je me suis rendu compte, en regardant plus près, que c'était un faux procès que j'étais en train d'y faire. Parce que, mine de rien, tu débloques pas mal de plans, etc. Et même, je me rendais compte aussi que je commençais à lui reprocher de pas assez renouveler son bestiaire. Alors qu'en fait, en y regardant plus près, je me suis rendu compte que, mais en fait, à chaque nouvelle zone, il y a au moins un nouvel ennemi.
Ouais.
Ce qui, quand même, n'est pas souvent le cas dans pas mal de jeux.
C'est vrai.
Et en fait, je me suis rendu compte, mon problème avec ce jeu, c'est la vitesse de sa progression. C'est-à-dire que, en fonction du joueur que tu es, et je le précise, je suis un très mauvais joueur de Dark Souls. je rappelle, j'ai mis 111 heures pour terminer Dark Souls 3, hein, donc je suis pas le joueur le plus opti.
Pourtant, tu aimes ça, donc tu es un peu sadomaso sur les bords.
Voilà, mais... Du coup, le truc, c'est qu'en fonction de ton skill, je sais pas si c'est mon skill ou si c'est la progression. Je pense qu'il y a un problème dans la progression, en tout cas. C'est-à-dire que moi, dans ma progression, j'ai battu le premier boss du jeu, je précise, pour ceux qui ont joué à l'accès anticipé. J'ai l'impression de pas avancer, en fait. Et du coup, c'est, il y a une espèce de frustration qui commence à s'installer parce que je me dis, ah non, pas cette arme, ouais, il va falloir repasser par cette zone, ouais, encore cet ennemi, tu vois. Et ça, j'ai l'impression, c'est vraiment que, à force de tourner en boucle dans les mêmes zones, il y a une frustration qui s'installe, quoi. Aussi, pourquoi je lui reproche de peut-être pas avoir une structure en Metroidvania, parce que une structure en Metroidvania, tu sais, avec un jeu d'un seul bloc, parce que c'est aussi ça, un Metroidvania, c'est le monde est fait d'un seul bloc.
Ouais.
Là, on a un monde qui est compartimenté. À un moment donné, je me disais, mais pourquoi Rogue Legacy, qui à certains points avec ce jeu-là, j'y retourne avec plaisir. Et pourquoi ce jeu-là, je commence déjà à me lasser. Et en fait, je pense que c'est ça mon problème, c'est que dans Rogue Legacy, à un moment donné, si une zone me saoule, bah je vais dans une autre, en fait. C'est ça l'intérêt aussi d'un Metroidvania. Alors certes, il y a certaines zones qui sont fermées, mais quand t'as un monde qui est d'un seul bloc, ben, tu peux choisir à quelle sauce tu veux être mangé, quoi, entre guillemets. Si t'en as marre de voir la gueule de cette zone, bah tu vas dans l'autre. Mais le problème, c'est que là, comme le jeu il est sur des rails, t'as toujours le choix entre A ou B. Tu peux pas aller sur C. Et ça, plus le fait que t'as plus cette sensation de liberté qui est très artificielle, hein, je suis d'accord. Hein. Les Metroidvania, t'es pas du tout libre, en fait. Hein. Mais non. T'as cette illusion, en fait.
C'est ça.
Et c'est l'illusion qui est importante. Et là, j'ai pas d'illusion. Je vois les rails, en fait. Et ça, ça me lasse, personnellement. En tant que joueur, c'est une mécanique qui me... Alors, c'est un jeu, moi, je pense que je vais y jouer en dilettante. Je vais refaire des runs de temps en temps. Mais je pense que c'est un jeu que je serais incapable de finir à cause de ça, parce que je pense que c'est un jeu où il faut tryhard pour arriver au bout. Et c'est pas un jeu que moi je vais tryhard parce que je vais me lasser au bout d'un moment. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est un jeu, que, franchement, qui est super cool, qui est super intéressant. Je pense que vous allez passer un super moment dessus. Et surtout, c'est un accès anticipé qui, pour moi, est super fignolé. Enfin, franchement, j'ai été impressionné. Le contenu qu'il y a dedans, la finition du gameplay, le fait qu'il y ait zéro bug. Franchement, c'est un accès anticipé pour tous les fans de jeux d'action en 2D. Je pense que c'est presque un indispensable. Mais par contre, pour les gens qui s'attendent peut-être à un jeu avec un peu plus de phases de plateforme, un peu plus d'exploration, à mon avis, pour le moment, attendez, regardez ce qu'ils vont faire. En tout cas, pour l'exploration, à mon avis, c'est mort, parce que je les vois pas retravailler la structure du jeu. Mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté des phases de plateforme, et que s'ils équilibrent un peu leur jeu pour mettre un peu plus de plateforme, même moi, j'y trouverais plus de plaisir, parce que finalement, en dehors du fait qu'ils proposent pas d'exploration, mon plus gros reproche, c'est qu'il y a trop de combats. Parce que même s'ils sont intéressants, je pense que c'est dommage d'avoir un gameplay aussi fluide et de ne pas profiter de ça pour mettre des phases de plateforme un peu plus poussées. Voilà, voilà.
En fait, c'est un très bon jeu où tu trouves pas beaucoup de défauts, mais en fait, c'est juste un jeu pas pour toi, quoi. Et des fois, voilà. Ça arrive.
En tout cas, c'est pas un jeu que je finirais, parce que je pense que je prendrais du plaisir dessus, mais à petite dose. Ouais, et comme un jeu, il faut s'y consacrer pour arriver au bout. Je m'y consacrerai pas, et donc je pense pas que j'y arriverai au bout. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. ATH, juste peut-être une question avant de partir. C'est bon,
je pense qu'on a fait à peu près le tour, parce que les questions, je les ai posées pendant qu'on en parlait. Du coup, enfin, on a eu un échange là-dessus. Et je pense qu'on a pas mal parlé.
En tout cas,
déjà
par contre, toi, je pense que c'est un jeu qui peut te plaire.
Ouais, mais après, enfin, moi, c'est un peu comme toi, c'est l'aspect roguelite où tu recommences en fait. À chaque fois depuis le début, tu vois, c'est un truc qui peut vite me lasser aussi, je pense. Le jeu serait comme à la manière d'un Dark Souls classique, où on serait dans une zone et à chaque fois que tu meurs, tu repopes au début de la zone.
Ça, en fait, ça te dérangerait pas qu'il soit linéaire, mais que tu recommences pas depuis le début du jeu à chaque fois.
Voilà, c'est ça, par un jeu comme à la, tu vois, les premiers Castlevania, comme on parlait, par exemple, Super Castlevania 4 sur Nintendo, c'est des jeux qui sont difficiles. Donc quand je perds dans le niveau, ça me dérange pas de refaire le niveau. Mais une fois que j'ai passé le niveau, en fait, j'ai passé le niveau, donc je me soucie pas de ce qui s'est passé avant, tu vois. Et du coup, moi, dans un jeu, j'aime bien avoir une vraie progression, on va dire. Alors que là, il y a une progression, c'est-à-dire que tu recommences depuis le début et t'es un peu plus fort. Mais ça va, je pense que c'est un truc qui peut me déranger sur le long terme, en tout cas.
Voilà. Bon, allez, on s'arrête là pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast.